nouveau bed que vous entendez. Toujours le fun. Wow! Bon, je laisserai le son lever. Tabarouette, c'est bon. Mais, et je vais faire un lien, tiens, avec le titre de la toune, Know Your Enemy. Bien qu'à l'international, qui est ennemi avec qui est ami avec qui, c'est de moins en moins clair. Et dans certains cas, bon, ce l'est très, très clair. Entre autres, bon, États-Unis, Iran, je pense qu'on peut dire que ce sont des ennemis assez clairs. Mais présentement, il y a également le peuple iranien qui se soulève face à son gouvernement. Et là, ça devient assez clair aussi qu'on est ennemi. Donald Trump qui de plus en plus parle de Cuba. Donald Trump qui de plus en plus parle du Groenland. On a vu ce qui s'est passé dans les dernières semaines entre les États-Unis et le Venezuela. Bref, ça brasse à l'international et pour en parler, l'ami Georges Mercier, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris. Georges, bonjour!
Salut Maxime.
C'est un énorme début d'année, puis je voulais qu'on fasse un petit peu le tour d'où on en est rendu dans les différents dossiers. Puis je pense que je veux commencer avec ce qui se passe en Iran, parce que on a peut-être l'impression que c'est un petit peu plus loin de nous. Tu sais, quand on parle de Cuba, ben là, mon Dieu, chaque hiver, je vois Cuba. Tu sais, quand on parle du Groenland, on a l'impression peut-être que ça vient nous toucher davantage aussi. En Iran, peut-être plus abstrait pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est gros ce qui se passe depuis deux semaines. Soulèvement massif de la population. Le bilan qui tournerait autour de 500 morts, là, c'est dur à dire exactement, puis on n'a peut-être pas les chiffres exacts en ce moment, mais une chose est sûre, on parle de centaines de morts. Est-ce que ça risque de s'aggraver pas mal dans les prochaines semaines? À quel point ça brasse en Iran, Georges?
Premier élément, je suis très content que tu prennes la peine d'en parler, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment des manifestations monstres en Iran. Et deuxième élément, tu as raison de dire que sur la scène internationale, souvent on sait plus trop qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Une chose est très, très claire. Okay. L'Occident libre, démocratique, qui respecte le droit des femmes, a un ennemi absolument clair, c'est le régime théocratique de religieux en Iran. Un régime qui, je le rappelle, assassine et bat des femmes parce qu'elles portent mal leur foulard islamique. Donc, si nous, en Occident, là, libéraux, éclairés, on a un ennemi, c'est les ayatollahs en Iran. Le problème en Iran, c'est que depuis 1979, la révolution iranienne, avant 1979, les Iraniens étaient un peuple perse, plutôt orienté vers l'Occident. Les femmes allaient à l'université, il y avait une grande liberté. Bon, c'était une monarchie, c'était pas une démocratie, mais néanmoins, c'était un pays qui était plutôt sympathique à nos intérêts, qui était aligné avec nous. En 79, on a une révolution islamiste, je précise, islamiste, théocratique, religieuse, et on installe au pouvoir un nouveau régime qui décide qu'il gouverne en fonction de la volonté de Allah. Okay, là, vous avez des ayatollahs, les guides suprêmes, qui se succèdent. Et ce régime-là a créé en Iran ce qu'on appelle un État dans l'État, qui sont les gardiens de la révolution. Et ces gens-là sont une organisation tentaculaire qui a ses mains un peu partout dans la société iranienne. Et au départ, ça pouvait fonctionner à peu près, parce qu'on a eu une guerre avec l'Irak, et les gardiens de la révolution disaient « Regardez, nous, on défend le peuple iranien contre des envahisseurs extérieurs. » Et là, ce qui se passe depuis une décennie, deux décennies, c'est que ce régime-là ne maintient plus ses promesses. Il y a une grave crise économique en Iran. La liberté est réprimée. Le peuple iranien lui-même ne se souvient plus, chez les jeunes, de ce qui expliquait en 79 la révolution. Et dans un contexte international et économique super difficile, ben, on a des manifestations qui se multiplient et qui prennent de l'ampleur. Et là, ce à quoi on assiste en ce moment, ce sont les manifestations les plus importantes contre le régime depuis plusieurs années. Le problème, la grande inconnue, c'est que le régime iranien, qui est barbare, qui est brutal, a une fâcheuse tendance, c'est de commencer à mitrailler sa population lorsqu'elle manifeste trop fort dans les rues. Et là, ce qu'on voit depuis jeudi dernier, c'est que le régime a fait ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire tuer des gens qui manifestent. On parle de 500 selon certaines ONG, c'est difficile de le savoir parce qu'il y a un blackout sur Internet là-bas, donc les informations sont très peu nombreuses, mais 500 morts au moins, peut-être 10 000 personnes arrêtées. Tout ça pourquoi? Parce que le régime dit « je veux rester au pouvoir », il dit à sa population « tu ne me vaincras pas, je vais te réprimer comme j'ai toujours fait ».
Est-ce que ça peut bien virer? Puis quand je dis bien virer, c'est à nos yeux, à nous, là. Est-ce que la population peut réussir son soulèvement, puis on en arrive à ou à amener une certaine démocratie en Iran? Ce monde, entre guillemets, idéal-là, là, y est-il
Ouais.
possible?
Ben, il faut distinguer deux scénarios. Le premier scénario, c'est que le régime théocratique actuel, le régime religieux, lui, soit décapité ou soit remplacé. Ça, c'est le scénario qui est sans être probable, qui serait envisageable. Bon, qu'on ait une belle démocratie libérale fonctionner en Iran, où il y a une population qui, encore aujourd'hui, est assez religieuse, assez, disons, attachée aux enseignements du Coran et de la charia, ce serait plus surprenant. Mais là, la grande question, c'est qu'est-ce que les Américains vont faire? Parce que Donald Trump avait dit la semaine dernière, si vous commencez à tuer des manifestants, je vais intervenir. Jusqu'à maintenant, il n'est pas intervenu parce qu'il y a une grande question qui se pose. Les Iraniens, c'est un peuple qui, oui, veut être affranchi de plus en plus des ayatollahs, du régime religieux, mais qui est aussi farouchement nationaliste. Et s'il y a révolution là-bas, ils veulent qu'elle provienne d'eux-mêmes, qu'elle ne soit pas imposée par les États-Unis. Donc, la Maison-Blanche actuelle doit faire preuve de beaucoup de doigté, être très, disons, sensible sur ce qu'elle va faire là-bas. Et on pourrait, par exemple, frapper des bases militaires, mais si on tue des soldats iraniens, comment est-ce que la population va l'interpréter? On pourrait sinon faire une cyberattaque pour empêcher le régime de réfréner les manifestations, ou même, c'est ce qu'on fait en ce moment, grâce à Elon Musk et le réseau Starlink de satellites qui donne accès à Internet, ben, rendre plus facile la sortie d'informations de l'Iran et disons, la coalition des gens qui manifestent. Un élément très intéressant en ce moment, c'est que le fils de l'ancien Shah d'Iran, l'ancien roi d'Iran, M. Pahlavi, qui habite en exil aux États-Unis, se présente de plus en plus comme une figure qui pourrait remplacer les ayatollahs et on scanderait même, on chanterait son nom dans les manifestations. Donc, si lui pouvait être ramené en Iran, est-ce qu'il pourrait prendre le contrôle de ça? Très incertain, mais il y a une fenêtre là. Surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une fenêtre en Iran qui ne s'est pas présentée depuis très longtemps et les pays occidentaux ont tout intérêt à saisir l'opportunité plutôt que, comme ce qu'on fait en ce moment, rester un peu sur les lignes de côté, pas vouloir trop se mouiller. Là, écoutez, je veux dire, face à un régime comme ça, on a intérêt à se mouiller.
Le chef d'État iranien dit qu'il donnerait une leçon inoubliable à Donald Trump et aux États-Unis en cas d'attaque. Est-ce que l'Iran est équipé pour une réponse si importante?
Non, parce que je rappelle quelque chose qui s'est produit cet été. Il y a eu une guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, où les Américains avaient notamment bombardé des sites nucléaires. Et ce que cette guerre-là a montré, c'est que le régime iranien, c'est un tigre de papier. C'est un régime qui avait cette ambition-là d'être une grande puissance au Moyen-Orient, qui avait ses milices, le Hezbollah, le Hamas, en Israël, et qui essayait de projeter sa puissance. Depuis les événements du 7 octobre, où le Hamas sont massacrés des Israéliens, bien Israël a réussi à couper pas mal la tête de toutes les milices qui étaient soutenues par l'Iran et affaiblir sa puissance. Et ce que la guerre de cet été est venue prouver hors de tout doute, c'est que l'Iran n'avait pas les capacités militaires, bien qu'ils aient les capacités militaires, n'avait pas les capacités militaires pour se bomber le torse autant. En fait, ça a été une douche froide sur le régime. Et c'est peut-être ça qui explique les manifestations aujourd'hui, parce que les Iraniens eux-mêmes ont vu que ce régime-là, qui se présentait comme absolument indépassable, très, très fort, eh bien, il était beaucoup moins fort qu'on pensait.
Georges Mercier, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris. On change de sujet. Donald Trump, qui s'attaque pas mal à Cuba ces jours-ci, suggère fortement à Cuba de conclure une entente avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'on doit savoir là, pour bien comprendre cette dynamique-là entre les États-Unis et Cuba, mais aussi entre la dynamique qu'il y avait entre Cuba et le Venezuela? Parce que c'est ça, en bout de ligne, qui vient affaiblir beaucoup Cuba au moment où on se parle.
Oui, certainement. Premier élément, je pense que la Maison-Blanche a pas encore compris ce qu'elle était vraiment réussie à faire au Venezuela. Puis il y a beaucoup d'ambition par rapport à ce qu'on peut faire en Amérique latine. Et c'est pas clair que ces ambitions-là sont nécessairement réalistes. En fait, il y a beaucoup de pensées magiques. Parce que ce qui se passait, c'est que depuis les années 2000, il y a eu un arrangement entre Cuba et le Venezuela, où le Venezuela envoyait du pétrole à Cuba, qui en avait gravement besoin, en échange de quoi les Cubains envoyaient des forces de sécurité et des médecins et d'autres professionnels au Venezuela. Donc, c'est un système d'échange qui permettait à Cuba de contourner les sanctions américaines, parce qu'on rappelle que Cuba, depuis la révolution de Fidel Castro, subit un embargo des États-Unis. Et pour une petite île située à 90 milles de Key West, se développer économiquement lorsque ton principal partenaire refuse de faire des échanges avec toi, c'est difficile. Donc, le Venezuela aidait Cuba avec ses apports de pétrole. Le problème, c'est que dans les dernières années, ces apports-là ont diminué et c'est le Mexique qui aujourd'hui fournit la majorité du pétrole à Cuba, et c'est pas clair que le Mexique va cesser de le faire du jour au lendemain. Mais c'est vrai que ça vient compliquer les choses parce qu'avec la décapitation du régime au Venezuela, Cuba perd un allié idéologique parce que la nouvelle vice-présidente, elle est moins convaincue par le socialisme de Nicolas Maduro ou d'Hugo Chavez. Elle est moins convaincue que c'est dans son intérêt de soutenir Cuba. Mais le gros problème à Cuba, c'est que contrairement à ce qu'on voit en Iran, mais il n'y a pas là-bas de mouvement de manifestation large. Il n'y a pas une. La population cubaine n'aime pas le régime cubain. Ça, c'est très clair. Ça va très mal économiquement. Leurs conditions de vie sont désastreuses. Ce qu'on remarquera, hein, si en allant au resort, on prend la peine de sortir un peu dans les villages, où il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté. Mais le fait est qu'il n'y a pas de mouvement d'opposition très large, puis il n'y a pas de figure qui pourrait remplacer le régime actuel. Et c'est la grande différence avec l'Iran.
Et qu'est-ce que Donald Trump aspire à gagner avec un deal avec Cuba? Qu'est-ce qu'il est allé chercher du côté du territoire cubain?
Ben, on sait même pas c'est quoi le deal. Il mentionne un accord. On sait pas c'est quoi qu'il y aurait dans cet accord-là. On sait pas trop ce qu'il veut. C'est de manière très, très cynique. Une chose que Donald Trump peut aller chercher, c'est se garantir le soutien de la Floride en vue de prochaines élections. Parce qu'il y a aux États-Unis une diaspora cubaine, des immigrants qui ont quitté Cuba, qui ont fui Cuba, qui eux ont un objectif très clair. C'est que le régime communiste là-bas disparaisse parce qu'ils ont perdu beaucoup. Et tu noteras, Maxime, que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est un fils d'exilés cubains et il fait partie de ces groupes-là qui sont très puissants, hein, à Miami, dans le sud de la Floride et dans d'autres États, qui eux voient comme une mission la fin du régime à Cuba. Et la meilleure manière pour un gouvernement républicain de se garantir leur vote, c'est de leur faire croire, de leur faire miroiter qu'on va travailler en ce sens-là. J'ajoute un élément très intéressant là-dessus. Depuis la révolution cubaine à Cuba, les administrations américaines successives ont promis beaucoup, beaucoup de choses à la diaspora cubaine. On leur a promis des révolutions, on leur a promis du soutien, soutien qui s'est pas matérialisé. Donc, il y a aussi une forme de ressentiment ici, dont Trump qui dit je vais suivre ma parole, aurait peut-être intérêt pour faire à ces gens-là au moins de suivre sa parole ici.
Georges Mercier, Trump qui lâche pas non plus le Groenland. Est-ce que tu crois à une intervention militaire pour prendre possession du territoire ou ça viendrait trop mettre la marde là, puis ça serait trop risqué pour les États-Unis d'aller chambouler comme ça l'ordre qui est établi présentement à travers le monde?
Écoute, je vais être très, très cynique au sujet du Groenland. Le Danemark, oui, c'est un pays de l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. C'est un allié de l'Occident. Bon, c'est un allié des États-Unis. Il y a déjà des accords qui permettent aux États-Unis de faire à peu près ce qu'ils veulent au Groenland. Donc, ils n'ont pas besoin de posséder le territoire pour le défendre. Mais dans un contexte où la géopolitique change, où les pays européens et occidentaux se rendent compte qu'ils ont été trop dépendants sur la défense américaine, sur la protection des États-Unis, et ça fait une genre de douche froide aujourd'hui. Est-ce qu'on irait vraiment briser ces alliances-là, qui sont pour la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., leur meilleure politique d'assurance-vie pour une île de 50 000 habitants environ, très peu peuplée, c'est pas clair. La question, c'est comment est-ce que Donald Trump voudrait vraiment acquérir le Groenland? Est-ce qu'il pourrait l'acheter? Parce que je rappelle, tu sais, 56 000 personnes, 56 000 habitants, 1 million par habitant, ça ne coûterait que 56 milliards pour les rendre tous millionnaires du jour au lendemain. Ce qui pourrait être un argument susceptible de les gagner à la cause. On verra ce qui va se produire, mais une opération militaire là-bas, envoyer des chars américains, des vaisseaux américains, ce serait très, très, très surprenant.
Est-ce que l'argument, j'ai envie de dire, principal de Trump dans ce dossier-là, qui est de dire si c'est pas nous, ben ça va être la Chine, si c'est pas nous, ça va être la Russie, est-ce que cet argument-là est valide?
Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les réchauffements climatiques, il y a de plus en plus de routes commerciales qui sont ou qui deviendront praticables dans l'Arctique. Et c'est vrai que les navires chinois et les navires russes, qu'il y a une compétition là-bas pour le contrôle de ces eaux-là. L'argument américain est de dire j'ai besoin d'avoir une présence au Groenland pour mieux contrôler les corridors maritimes. C'est un argument qui tient. Le problème, c'est que ce n'est pas un argument qui demande aux Américains de posséder l'île pour pouvoir la défendre. Il y a des accords où ils pourraient mettre des bases militaires. Oui, en fait, il y a deux éléments qui expliquent l'obsession de Trump avec ça. Le premier, c'est qu'il réfléchit comme un promoteur immobilier et il se dit pourquoi j'investirais sur un territoire qui ne m'appartient pas. Un peu comme, par exemple, vous êtes locataire, vous avez un appart, vous voulez faire une amélioration, vous vous dites, mais je ferai pas ça parce que je peux me faire mettre dehors du jour au lendemain. Deuxième considération, c'est peut-être principalement une question d'ego, parce que regardez une carte du monde et imaginez que l'Amérique, c'est plus seulement l'Amérique, mais c'est aussi le Groenland. Trump aurait été le premier président depuis très longtemps à accroître le territoire américain. Et évidemment, pour lui, ce serait une manière d'inscrire son nom dans l'histoire américaine.
Est-ce que le Canada devrait craindre pour son grand nord dans ce contexte-là?
Bah, chose certaine, je ne sais pas si le Canada doit craindre pour son grand nord, mais le Canada, si on veut faire plus que des grandes déclarations un peu vides, il va falloir que les bottines suivent les babines et qu'on investisse davantage dans la sécurité du grand nord. Mais ça, c'est un choix politique. Puis la question, c'est est-ce qu'on veut mettre des fonds là-bas? On veut mettre des fonds dans nos programmes sociaux ou dans d'autres investissements. Et si on refuse de le faire, mais il va falloir subir le coût de ça, où les Américains vont dire, écoutez, vous n'êtes pas capable de protéger le Grand Nord, nous allons le faire à votre place, avec toutes les conséquences désagréables que ça amène, un Canada toujours plus soumis aux États-Unis.
Georges Mercier, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris. Georges, merci beaucoup. D'après moi, on va avoir du stock pour se reparler bientôt.
L'actualité est foisonnante. À bientôt.
Salut. Au retour, on jase politique provinciale parce que il y a des députés indépendants qui sont de plus en plus nombreux qui sortent ce matin. En fait, c'est un dossier de la presse puis qui demande de changer les règles. On aimerait que les députés indépendants aient certains avantages qu'ils ne peuvent pas avoir présentement. On aimerait que ce soit plus facile pour des députés qui sont liés à des partis de faire le choix peut-être de devenir indépendant sans craindre les désavantages qui viennent en ce moment avec ce choix-là. Dossier super intéressant, puis ça va nous permettre aussi de dresser un portrait. Qui sont les députés indépendants présentement à l'Assemblée nationale? Il est 10h38, vous écoutez le Point de Max à Boulevard.